Et c'est le match décisif, le match le plus décisif de cette phase de poule, car en cas de victoire, le Paris Saint-Germain à 9 points pourrait mettre le troisième à 4 points, voire à 5 points si une équipe arrive à se départager entre Dortmund et Newcastle. Et du coup, le Paris Saint-Germain pourrait s'en sortir avec deux matchs nuls pour les deux derniers matchs et finir quand même premier de son groupe. Donc, c'est une victoire quasi impérative pour se mettre bien dans des bonnes conditions pour le reste de ces matchs. Aujourd'hui, on est avec Dryas, on est avec Parisien 88, il y a Rekoba qui va arriver. On va parler de tout ça, on va décortiquer ce match, sujet après sujet, restez avec nous. Bonjour Parisien 88, c'est le moment qu'on essaie de faire ce live ensemble, c'est un plaisir de t'avoir dans cette émission. Il y a Rekoba qui nous rejoint. Donc,
oh va...
la surprise de Rekoba, il ne s'attendait pas à voir Parisien 88.
Je connais cette tête.
Attends, je vais essayer peut-être comme ça, non? Attends.
Ouais, c'est mieux comme ça, nickel. Ok, bon, on va décortiquer cet avant-match sujet après sujet. On va commencer avec notre invité. Ça fait quelques matchs que Kang In-Lee est très en forme et que franchement, moi, enfin, je ne suis pas bluffé parce que je m'attendais un peu à ça. Mais on va à Milan. Est-ce que tu continues avec Vitinha ou est-ce que dans ce milieu de terrain, tu veux impérativement Kang In-Lee?
Bah écoute, le problème, c'est, on va dire, c'est un problème de riche qu'on a là. C'est la preuve déjà qu'on a enfin un effectif bien étoffé par rapport à la saison dernière. Là, on se pose la question qui on va mettre au milieu, etc. Alors qu'avant, on se disait, on n'avait même pas de remplaçant, il ne faut surtout pas qu'il y en ait un qui se blesse, tu vois ce que je veux dire. Et là, tu me poses la question, c'est ça d'avoir un banc de touche de qualité. Attends, excuse-moi, Nick, parce que là, je suis en plein. Je n'arrive pas à trouver le bon endroit pour qu'on me voit bien. Pour que...
Bah, vas-y, je passe la galère. Bon, on va revenir à toi.
J'ai beaucoup de vent à la maison.
Et on saura tous, les amis.
Vas-y, Rako.
Comme il le disait, c'est un problème de riche, c'est enfin un problème qu'on a, parce que c'est vrai que les années précédentes, on se demandait qui on allait aligner. Là, on a deux joueurs qui sont en pleine forme. Et personnellement, s'il y avait. Bon, c'est compliqué à choisir. Hein. Après, on a deux profils un petit peu différents, mais moi, j'aurais quand même continué avec Vitinha, qui fait quand même un gros début de saison. C'est difficile quand même de le sortir du 11. Les fois où il est sorti, c'était un petit peu c'était pas mérité. Au final, quand il revient, il est bon. Là, il rentre, il marque. Donc on va dire qu'il a quand même mérité sa place. Alors je dis pas que Kang In-Lee ne la mérite pas, mais il a quand même le facteur expérience un peu en plus. Alors c'est vrai que si tu fais jouer Kang In-Lee, il va acquérir de l'expérience aussi, mais pour l'instant ça fonctionne bien. En Ligue des Champions, ça fonctionne bien. Avec lui, ça fonctionne bien. Il y a un équilibre qu'on n'a pas avec certains autres joueurs. Donc, personnellement, j'aurais quand même continué avec Vitinha et puis j'aurais fait rentrer Kang In-Lee à 20-30 minutes de la fin. Mais pour l'instant, les gros matchs, on les a gagnés avec lui. Il répond présent dans les gros matchs avec la manière. Donc, personnellement, j'aurais quand même continué avec lui. Et puis, rien n'empêche de titulariser Kang In-Lee derrière en Ligue 1 comme là face à Montpellier, ou de le faire rentrer si ça se passe mal ou même si ça se passe bien. Mais personnellement, j'aurais quand même fait le choix de continuer avec Vitinha.
Dryas, tu pars sur l'équilibre avec Vitinha ou la créativité, le danger, les passes imprévisibles de Monsieur Kang In-Lee?
Je crois que j'ai commencé à arrêter de dire je vais ici, je vais là, parce que j'ai dit beaucoup de fois je vais ici, je vais là, puis il devrait pas faire comme ci, il devrait pas faire comme ça. Et mine de rien, avec Enrique, autant des fois j'ai raison, parce qu'autant des fois on a eu quelques matchs purgesques quand même, on n'est pas tombé au niveau de la galette, mais il y a des fois où tout à coup, tu vois, enfin, on va parler du 4-2-4 tout à l'heure, j'étais, mais c'est quoi cette hérésie, faut arrêter, ça a marché un match, puis tout à coup, tu t'aperçois que bah non, ça commence à marcher, ça commence à fonctionner, le mec il met des joueurs ici, il en met là, il fait tourner un tel là, il fait tourner un tel ici, j'ai envie de dire maintenant, en fait, Kang In-Lee ou Vitinha, il y a une différence, hein, qui est un peu plus offensif, il y en a un autre qui apporte plus de... un peu plus de certitude au milieu quand même avec Vitinha, alors qu'avec Kang In-Lee, tu as un petit peu plus de certitude justement dans la transition, avec un mec qui est légèrement plus devant et donc tu as plus ce relais milieu-attaque. Mais en fait, maintenant, je vais faire confiance à Enrique, parce qu'il a l'air de mieux connaître son taf que moi.
Non, sans blague.
Non, mais je commence à être surpris, en fait. Donc, Vitinha, Kanginli, je suis plus en mode, les deux, comme le disait Ricoba, Vitinha a fait, des fois, il a fait quelques matchs où il était un petit peu lent de la passe, etc. Mais à chaque fois qu'il a fait des rentrées, il est rentré plein pot. T'as l'impression qu'en joker, mine de rien, il est extraordinaire. Kanginli, pour l'instant, moi, je lui vois encore une question. Il est pas très rapide. Donc face à des défenseurs qui remonteront beaucoup plus vite sur lui, où il sera pressé beaucoup plus vite, comment est-ce qu'il va s'en sortir s'il y a moins de mouvement par exemple qu'en Corée, à voir, il y a encore des interrogations sur ce joueur, on n'est pas que en certitude. Maintenant j'ai envie de faire confiance à Enrique, lequel des deux il va mettre en premier, les deux proposent des choses et vers Ramos quoi.
Ok monsieur,
t'as pas ton micro?
Ouais, c'est bon, t'entends, vas-y.
Parce que c'est marqué, voilà. Ouais, non, je m'excuse, hein, j'ai un peu bougé parce que là où j'étais, c'était trop clair. Et d'habitude, là, c'est mon endroit de mes vidéos, mais vu qu'il y a du vent, pas mal de vent chez moi, ça souffle dans le volet, donc j'avais peur que ça s'entende, mais ça va. Donc, du coup, je me suis remis là, non, nickel. Donc, oui, je disais, c'est des problèmes de riches. L'année dernière, on ne se posait pas cette question de savoir si on avait qui on va mettre au milieu de terrain entre un tel et un tel. Il nous manquait beaucoup de joueurs, il nous manquait un banc. Donc là, c'est quand même une question où on est content de la poser, en fait. Tu vois. Maintenant, moi, je suis plus d'avis, oui, comme il a dit Rekoba, Vitinha, c'est un joueur qui fait partie de ces joueurs du PSG qui se retrouvent dans ce PSG de Luis Enrique, parce qu'il y en a plein qui commencent à sortir de la tête de l'eau où ils étaient complètement fondus sur l'année dernière, comme Hakimi, Vitinha, tu vois, il en fait partie. Et même Marquinhos, que je retrouve avec beaucoup plus de leadership et de confiance en lui, on a l'impression qu'on retrouve un peu le Marquinhos qu'on aime. Maintenant, Vitinha, c'est un joueur qui est sur la progression, qui est beaucoup mieux. Et c'est vrai que de laisser sur le banc, ça peut le freiner dans sa progression. Et pour moi, même si j'aime beaucoup Kanginli, comme tu l'as dit tout à l'heure, Dryas, il apporte beaucoup de percussions, il est pas mal offensif, la technicité et tout. Mais le milieu Vitinha, Zaïre Emery, Ugarte, je le trouve très complémentaire et très équilibré, notamment dans les grosses rencontres face à un gros comme Milan. Je préfère ces trois-là ensemble dans ce genre de match. Voilà. Kanginli, il peut rentrer 65e, 70e, il t'apporte une fraîcheur au milieu, il t'apporte la conservation de ballon. Il peut te faire du bien, mais pour débuter, moi je préfère Vitinha ou Ugarte, Zaïre Emery. Ce milieu de terrain là, je le trouve très complémentaire, équilibré. C'est encore des jeunes milieux de terrain qui vont encore en plus apprendre à jouer ensemble et à grandir ensemble.
Eh ben, je me sens bien seul dans ce débat, car contrairement à vous, je te redonne la parole, Dres. Contrairement à vous. Moi, j'ai toujours eu du mal avec Vitinha dans ce poste, parce que comme j'ai souvent dit, pour moi, Vitinha, il est en concurrence avec Zaïre Emery. En fait, le poste de 8-10, il n'a rien à faire là. Ce n'est pas un joueur qui crée. En fait, quand je revois Vitinha de Porto, en fait, il avait le rôle de Zaïre Emery. Le 8-10 qui créait dans le jeu de Porto, c'était pas lui, c'était Fabio Vieira, je crois qu'il s'appelle, qui est maintenant à Arsenal, ou à Liverpool, je me rappelle plus.
Bref, Arsenal,
c'est pas lui qui créait le jeu. Vitinha, j'ai l'impression qu'on essaie de faire de lui un certain, comme j'ai entendu, un Bernardo Silva du pauvre, mais c'est pas son rôle. Tu verras que dans la dernière passe, il a pas ce truc, c'est pas un mec qui va trouver des passes qui existent pas, en fait, alors que quand Kanginli, on l'a vu encore à l'extérieur du pied gauche, oui, dans ce qu'il y a à Mbappé. Tu peux mettre Vitinha tous les jours, il ne va jamais te faire une passe comme ça. Et c'est pour ça que pour moi, 8-10, pour moi, il n'y a pas débat. C'est Kanginli qui devrait y être. Et je comprends vos raisonnements dans le sens où on partira avec la sécurité des trois qui ont l'habitude de jouer plus ou moins ensemble et qui ont l'expérience dans les grands matchs. Mais le déséquilibre que Kanginli crée, pour moi, c'est une plus-value énorme. Je te rends la parole, Dres.
Déjà, je voulais réagir sur ce que disait Parisien. C'est le milieu de Milan, là. Il est un peu fraise. Donc, avoir besoin de renforcer son milieu, c'est pas l'urgence, à mon avis, sur ce match. Maintenant, par rapport à ce que tu dis, Nyx, dans l'ensemble, tu as raison. Il y a juste, je te trouve, un chouïa dur avec Viti, dans le sens où sa participation offensive n'a pas été nulle. Et notamment lors de ses entrées, il a été en impact player, il a été assez monstrueux au niveau justement de sa participation offensive. Il t'amène une dimension qu'a pas montré encore Lee. C'est une véritable possession. T'as beaucoup plus d'assises en possession quand t'es dans les 30 mètres, adverses. Maintenant, après, je te rejoins. Lee est complètement enthousiasmant. Et pour ce poste, il est plus là. Et c'était un truc. Je t'avais pas posé la question sous cet axe-là. Mais effectivement, est-ce qu'il faut envisager une concurrence Warren-Vitti? Et c'est une question qui fait sens. À voir si Vitti est aussi à l'aise côté droit, mais a priori, oui. Et d'autant plus qu'un Warren, mine de rien, enchaîne les matchs, peut avoir besoin de se reposer, peut avoir besoin de se ressourcer, peut avoir besoin d'être mis en concurrence pour peut-être encore plus se mettre en danger. Et c'est un débat qu'il faudrait ouvrir.
Personnellement, je veux juste finir là-dessus. On change pas une équipe qui gagne. Alors oui, on a gagné face à Montpellier, mais les gros matchs, on les a gagnés avec Vitinha au milieu, Ugarte et Zaïre Emery. Ça fait un petit moment maintenant qu'ils jouent ensemble, plusieurs matchs, etc. On a gagné face à Milan avec ces trois milieux-là, 3-0, et on les a quand même pas mal dominés au milieu de terrain. Là, on va aller à San Siro dans une ambiance de folie où le Milan est obligé de gagner pour pouvoir survivre dans ce groupe-là. Donc, il va falloir quand même, moi, je ne suis pas d'accord, il va falloir quand même renforcer le milieu de terrain. On a vu qu'à Newcastle, on avait pris la foudre et qu'on voit bien qu'à l'extérieur, des fois, on a du mal collectivement et qu'on peut sombrer. Donc, une touche, on va dire, un peu plus physique et un peu plus vrai milieu de terrain au milieu ne serait pas de refus personnellement. Après, sur les 30 dernières minutes, par exemple, un Kang In Lee peut vraiment t'apporter de la créativité et faire la différence face à des joueurs un peu plus fatigués. Et en plus de ça, on a quand même vu face à Montpellier que Kang In Lee avait du mal dans sa gestion de match encore. C'est normal, il est jeune, il est au Parc des Princes, c'est une de ses premières titularisations, donc il a vraiment tout donné. On a vu quand même à la fin de la première mi-temps qu'il tirait un peu la langue après son action là où il va tacler sur le bord du terrain. Et on voit qu'après, bah, il sort au bout de 65 minutes. Donc, il a encore du progrès à faire dans la gestion de son match. Et c'est là qu'un Vitinha est important dans un grand rendez-vous comme ça, où il a un peu plus d'expérience, où il joue un peu plus ça fait un peu plus de temps qu'il joue avec ses coéquipiers. Donc, personnellement, j'aurais quand même continué avec Vitinha. Et après, j'aurais fait rentrer Kang In-Lee dans les 20-30 dernières minutes.
Quand tu compares le milieu de Newcastle quand même, surtout le milieu de Milan dans cet état-là, hein, je trouverais quoi.
Bon, attends.
Après, Nyx, pour en venir à nos milieux de terrain, il y a un truc qu'on a constaté encore hier, c'est que, pour rebondir encore sur la saison dernière, il y a une différence dans ce PSG de Luis Enrique, c'est que là, il y a les mecs qui se projettent dans la surface, ils marquent des buts. Et ils n'hésitent pas à tirer de loin. Zaïre Emery, le but contre Brest. Vitinha, ce n'est pas la première fois qu'il nous claque un beau but comme ça, proche de la surface. Ils osent plus, ils se projettent plus dans la surface et ben, ils marquent plus. Hein, hier, c'est les trois milieux qui marquent. C'est Kang In Lee, Vitinha et Zaïre Emery. Voilà, donc ouais. c'est un truc aussi qui change par rapport à la saison dernière. Et Kang In Lee, franchement... on n'en a pas parlé, mais 100% passe réussi, c'est quand même très très fort.
Ouais, justement, on devait en parler de ça dans ce podcast. Et le manque de dépendance au niveau des attaquants, notamment qu'on a des milieux de terrain qui ont marqué plus de buts que nos attaquants, ça c'est quelque chose de fou. Kevzor qui nous a rejoint, mardi, tu vas à Milan, tu mets Kang In le créateur ou Vitinha, monsieur l'équilibre?
Eh bien déjà, salut tout le monde. Désolé pour le retard, j'ai raté mon réveil. Mais pour être honnête, je pense qu'on a besoin quand même d'avoir une certaine stabilité. Et ce, depuis le début de la saison. Même si j'aime beaucoup, beaucoup Kang In, qui a des qualités que Vitinha n'a pas, je pense que pour le bien de l'équipe et pour le bien de cet équilibre, Vitinha a quand même plus d'expérience sur cette saison et plus de repères avec cet effectif. Maintenant, je pense, après trois titularisations d'affilée pour Kang In, que ce n'est pas anodin de la part de Luis Enrique et qu'il veut l'installer quand même dans cet effectif sur du moyen à long terme. Mais je pense sincèrement qu'il partira avec Vitinha pour garder cet équilibre et défensif et qui fera rentrer Kang In sur 30 minutes. Je pense aussi que le fait que Kang In se soit blessé pendant la préparation, se soit blessé aussi à son retour euh, euh, face, euh, face à Dortmund, si je ne me trompe pas, ou à Toulouse, je ne sais plus, qu'il soit parti derrière aux Jeux Asiatiques. Mais malheureusement, il a un petit souci, je pense aussi, sur la gestion de ses matchs. Il donne beaucoup d'énergie, mais il n'est pas prêt encore à enchaîner plus de 45-50 minutes à très haute intensité. Et on a vachement vu, en fait, Lee éteindre...
C'est Marco Verratti asiatique, en fait. il est technique et à 60e, il est tout rouge, il n'en peut plus.
Ouais, non, mais la grande différence, c'est que Marco, il est en dessous de la ligne du milieu, donc ce n'est pas tout à fait comparable à ce niveau-là. Ils sont pas
vraiment... Ah, mais c'était par rapport au fait qu'il n'est pas 4
minutes. Non, mais c'est vrai que hier, sur la deuxième mi-temps, en fait, à l'entame, on voit quand même qu'il est un peu plus effacé, qu'on le voit un peu moins qu'en première mi-temps. Et même à la 60e, quand il sort sur le remplacement qui est effectué, je vois sur son visage que le mec est cramé complet. Par contre, c'est vrai que quand il est sur le terrain, on ne peut rien enlever à Lee, c'est qu'il donne beaucoup. Et c'est bien quand même pour pallier un petit peu cette problématique qu'on a avec Kylian côté gauche, qui fait que voilà, Kylian ne défend pas. Et il y a eu plusieurs fois, même ça me faisait de la peine pour Kangin, sur ce fameux contre-pressing, où on se retrouvait en 2-2 avec Kylian et Kangin face à deux Montpelliérains. Et Kangin allait faire le contre-pressing sur deux joueurs, pendant que Mbappé était à 2 mètres et ne le faisait pas forcément sur certaines situations. Donc c'est vrai qu'il donne beaucoup et j'aime beaucoup son profil. Je pense que la relation qu'il peut avoir avec Kylian sur un plan technique et offensif est très, très intéressante parce que c'est le seul joueur de cet effectif dans ce milieu de terrain qui, je pense, est capable en une touche de balle de lancer Kylian en profondeur. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne voit pas assez Kylian prendre la profondeur depuis ce début de saison, parce qu'il lui manque ce profil où avant on avait Messi, Neymar, Verratti et voire d'autres joueurs qui voilà, sur cette passe entre le latéral et l'axial permettaient de l'envoyer entre guillemets sur orbite. Donc voilà tout.
Les amis, on a quand même passé 15 minutes sur Kangin Lee. On va avancer parce que sinon on va pas s'en sortir. Le prochain sujet, c'est, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux, il y a des supporters du Milan de l'AC Milan qui ont mis plein de cartons qu'ils ont commandé, je sais pas quoi, pour accueillir Donnarumma. Est-ce que vous pensez que émotionnellement, Donnarumma, il va pouvoir gérer ce match? Est-ce qu'il risque de s'effondrer? Est-ce qu'on peut s'attendre à des boulettes de Donnarumma? Je te laisse la parole, Parisien 88.
Moi, en fait, je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai toujours tendance à défendre Donnarumma. Je trouve que pour la petite parenthèse, Donnarumma, c'est clair, il y a cette boulette face au Real, mais ça va bientôt faire 2 ans. C'est clair qu'on n'est pas serein avec lui, balle au pied, mais il ne faut pas oublier le nombre de fois où il a fait des arrêts décisifs sur beaucoup de matchs, où il est monstrueux sur sa ligne, et ça aurait été Navas qui aurait fait les mêmes arrêts, tout le monde aurait sorti, tout le monde ne se serait pas luché. Mais tu vois, et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, alors c'est l'impression que j'ai, mais j'ai l'impression qu'il y en a aussi beaucoup qui font une fixette sur Donnarumma, qui ont décidé d'en faire la... comme dirait l'expression, le bouc émissaire, parce qu'il a pris la place de Navas, qui était beaucoup aimé par beaucoup de supporters. C'est le sentiment que j'ai, parce que des fois, même quand il va faire un gros match, on va nous dire, ouais, mais on n'oublie pas Madrid, ouais, les gars, c'est bon, passez à autre chose. Moi, je ne sais pas, j'aime bien Donnarumma, j'aime son état d'esprit, j'aime sa gentillesse, j'aime le mec, il est professionnel, le mec, il est toujours sourire, il est toujours... Bien sûr qu'il a ses problèmes de relance, tout ça, mais il y a plein de matchs où il nous sauve par des arrêts de ouf. Et je trouve qu'on est un petit peu, enfin beaucoup de supporters sont très durs avec lui et le prennent un peu comme en grippe, quoi. Maintenant, est-ce que mentalement il va savoir gérer ça? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas parce que après normalement c'est un gars de classe internationale qui dès l'âge de 17 ans a été titulaire dans un club énorme comme Milan, où la pression est énorme dans un club comme ça. Il a été même, je crois, il a porté le brassard, si je ne dis pas de bêtises, de l'AC Milan très jeune. Si je ne dis pas de bêtises, il était capitaine de Milan. Hein. Rappelez-moi si c'est une bêtise, mais il me semble qu'il était capitaine.
Oui, c'est ça. Oui,
voilà. C'est ça. Meilleur joueur de l'Euro alors qu'il avait quoi, 20 ans, je ne sais plus quel âge, enfin, il était très jeune, 21 ans. Donc je pense franchement que c'est le genre de mec que la pression, il sait la gérer, je pense. Après, est-ce qu'il saura la gérer, je ne sais pas, mais je pense sincèrement que c'est un mec qui a déjà démontré qu'il avait du... Le fiasco de Madrid, pour revenir dessus, quand il fait sa boulette, il y a encore un partout, on est encore qualifié. C'est pas lui qui s'est chié dessus, c'est les 10 joueurs de champ derrière. Voilà. C'est trop facile de remettre la faute que sur lui et dire que c'est lui qui a pas de mental. Non. C'est quand il fait sa boulette, pour moi, c'est les 10 autres à côté qui font caca culotte et qui reculent. Après, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent derrière? Si les mecs qui reculent et puis que les gars. Voilà, c'est assez compliqué, gardien. Mais non, moi, je pense qu'il va savoir gérer ça. Alors après, bien sûr, son principal défaut, son jeu de pied, ça c'est vrai que on est pas... Moi, des fois, il me fait flipper. Ça, c'est sûr, c'est son gros défaut.
Darius, je te repose la même question et je te rajoute du contexte parce que la dernière fois qu'il a été à Milan, c'était avec l'équipe d'Italie déjà. C'était il y a quelques semaines, ça s'était pas très bien passé. Est-ce que tu penses que ça va être différent mardi?
Alors très rapidement, je voulais vite faire réagir à ce que disait Parisien. Moi, pendant très longtemps, j'ai vraiment soutenu Donnarumma parce que Navas m'avait saoulé pour différentes raisons, etc., etc. J'en avais marre un petit peu et donc j'étais content qu'il soit là. Et il y a eu un moment où j'étais quand même bon. Ça commence à devenir dur de le défendre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment pas eu que Madrid. Faut pas se diminuer les. Il a eu quelques petits soucis d'adaptation. Il a eu des périodes où c'était pas tout à fait ça. Maintenant, oui, comme tu le dis. Je ne suis pas si sûr. Et oui, c'est une chose que d'être solide mentalement quand tu es dans le club de ta jeunesse, dans le club dans lequel tu as été formé, que tu es dans un espèce de train où tout va dans la même direction et à ce moment-là, être fort en fait pour les autres. Mais une fois que ta base est contre toi, ce n'est pas forcément la même chose. Donc, c'est une inquiétude. Maintenant... vu ce que Milan nous a proposé, je sais pas, enfin ils ont eu combien de frappes cadrées avant la 45e. Donc si on arrive à ne pas avoir de frappes cadrées, il y aura pas à se poser la question en fait. Il y aura juste pas à se poser la question. Il va falloir réussir à refaire la première mi-temps qu'on a fait à Valais. Alors ce sera pas à la maison cette fois, mais va falloir réussir à le faire et à ce moment-là, on n'aura pas à se poser cette question parce que c'est vrai que c'est une interrogation me concernant.
Et Kevzor, je te repose la même question. Et comme il a dit Dryas, le contexte il sera différent d'il y a deux semaines parce qu'on sera à l'extérieur. La dernière fois qu'on a été à l'extérieur, c'était à Newcastle, une autre ambiance, ça s'était pas très bien passé. Qu'est-ce que toi t'en penses?
Eh bien moi, je rejouais Parisien 88 parce que moi je suis un fervent défenseur de Donnarumma. Pardon. Et sur l'espace, je me suis vachement bagarré concernant en fait sa défense. Et comme j'ai dit, je rejoins Parisien parce qu'aujourd'hui, ça aurait été Navas qui aurait été dans les buts sur pas mal de situations. On lui aurait trouvé des excuses. Alors qu'il est vrai que Donnarumma n'est pas exceptionnel sur tous les domaines. Par contre, sur sa ligne, et ce depuis qu'il est installé, j'ai rarement vu un gardien être aussi performant sur sa ligne et faire autant de grosses parades. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que même si Navas nous permet de passer un step... sur un plan Europe, la demi-finale contre Manchester City, il est grandement fautif sur deux buts. Et ça, en fait, aussi, tout le monde l'oublie. J'aurais bien imaginé si c'était Donnarumma à sa place.
En vrai, on ne va pas rouvrir le débat Navas-Donnarumma. On parle de Donnarumma. Pas... Ouais, c'est bon, c'était un débat d'il y a un an.
T'as pas eu ton café ce matin, Dryas, ou c'est comment?
Il est pas content, Dryas, ce matin. Non, mais bon, je veux dire, Donnarumma, je pense qu'il a quand même prouvé au PSG l'année dernière. Malgré l'équilibre défensif qui était catastrophique, il a fait des parades qui étaient exceptionnelles. Depuis le début de la saison, alors certes contre Newcastle, il en fait une, mais sincèrement, tout le monde en a fait une depuis le début de la saison. Il nous a sauvés depuis le début de saison sur pas mal de rencontres. Je trouve aussi que l'équilibre défensif de l'équipe lui permet d'avoir une certaine sérénité et plus de stabilité. Donc moi, je pense que oui, forcément... ça va le toucher d'aller dans son club formateur, dans son club qui lui a donné la première fois le brassard. Et je pense qu'il sera, entre guillemets, sous pression. Il a quand même répondu présent sur pas mal de domaines. Et moi, j'ai entièrement confiance sur Donnarumma, qui en plus cette saison a énormément progressé dans le domaine aérien, a énormément progressé aussi sur son jeu au pied. Parce que je rappelle qu'on a changé d'entraîneur de gardien avec la venue de Luis Enrique. Et depuis X années auparavant, on n'avait quasi aucun gardien qui avait progressé, si je ne me trompe pas. Hein. Donc,
ouais, voilà. on oublie qu'il est encore très jeune, Donnarumma. Il a encore beaucoup de choses à progresser. Tu sais, sans faire le rabat-joie, mais Navas, à l'âge de Donnarumma, il jouait encore, il n'était pas encore en Europe. À 24 ans.
Mais arrêtons de parler de Navas. Si c'est ça, Parisien, moi, je ne voulais plus de Navas depuis très longtemps. J'étais très content que Donnarumma arrive. Mais arrêtons de parler de Navas. C'est bon. C'est, enfin, tout le truc, tu vois, c'était une fight.
Non, mais pour faire juste la petite comparaison, tu vois, c'est que voilà, ça va pas empêcher Donnarumma de.
Bon, Grincheux, va boire du café, Eric Aubard.
C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'il est encore super jeune pour un gardien, Donnarumma. Donc, il a une sacrée marge de progression encore.
Vas-y, Eric Aubard, laisse terminer. Après, on va aborder la défense de l'AC Milan.
Non, mais c'est sûr qu'il y a un traitement de faveur un peu différent parce que Navas, il est dans le cœur de tout le monde. Il a fait des choses exceptionnelles avec nous. Et depuis qu'il y a eu ces petites bourdes de Donnarumma face au Real, ben voilà, il y a un traitement de faveur un peu différent. Comme l'a dit Parisien 88, effectivement, les 10 autres aussi, ils ne sont pas exemptés de tout reproche. Donc, à un moment donné, on ne peut pas tout remettre sur lui. Maintenant, il est vrai que cet épisode l'a quand même fragilisé. Comme l'a dit Drias, il n'y a pas que le Real. Post-Real, ça a été aussi un peu compliqué pour lui. Maintenant, il s'est quand même bien remis. Il y a eu, comme l'a dit Kevzor, il y a eu un gros début de saison. Et même avant, sur sa ligne, Donnarumma est un des meilleurs gardiens du monde. Très clairement, les parades qu'il fait, c'est exceptionnel. Maintenant, on le sait tous, il y a des endroits sur lesquels il doit encore progresser. La chance qu'il a pour lui et pour nous, c'est qu'aujourd'hui, on a un entraîneur qui met l'accent sur le jeu et sur le jeu au pied. Donc, il va pouvoir progresser là-dessus. C'est indéniable, puisque forcément, il va le bosser à l'entraînement, puisque c'est un de ses points faibles. Donc, ça, tant mieux pour nous. Maintenant, à cause de cet épisode, forcément, on se pose la question, est-ce qu'il peut être fragilisé à cause de ce retour face au Milan? On sait qu'ils l'attendent, on sait qu'il va y avoir ces valises de billets. Donc, on peut se poser la question, c'est légitime, on verra, c'est à lui de répondre. Mais forcément qu'on peut se poser la question. Maintenant, comme l'a dit Parisien 88, il a gagné l'Euro très jeune, il a été capitaine du Milan, la pression, il a l'habitude. Donc, à lui de montrer que cette pression, il peut la boire. Mais cette question est légitime, étant donné qu'à certains moments, il a montré un peu de fragilité et du coup, à cause de ça, il a été fragilisé. Mais à lui de montrer qu'il a grandi et que mentalement, il a pu progresser grâce à ça, même si c'est des erreurs. On progresse toujours de nos erreurs. Donc, à voir, mais forcément que c'est légitime de se poser la question.
Bon, il a montré une fragilité à l'image de notre effectif, qui était aussi extrêmement fragile. Tu vois, c'est là où aujourd'hui, on a quand même fait une razzia, entre guillemets, de beaucoup de joueurs de cet effectif qui avaient cette fragilité psychologique et mentale. Et voilà, comme tu l'as dit.
Certains aussi, il faut le dire, qui étaient des virus pour le vestiaire.
Exactement. Mais je voulais dire ce que tu dirais, Koba, pour l'Euro, il ne faut pas oublier qu'il est un élément, voire l'élément majeur de cet effectif qui leur permet de remporter l'Euro à son jeune âge. Voilà tout.
Bon, avant que Bourville...
Il est meilleur joueur, je crois. Meilleur joueur ou meilleur gardien. Il est meilleur joueur aussi, non?
Ouais, il a été élu meilleur joueur de l'Euro. Meilleur joueur.
Ouais, c'est ça. Hein.
Ouais. Bon, avant que Bourville pète un câble, on va passer au sujet suivant. La défense du Milan AC n'a pas été exceptionnelle au Parc des Princes parce qu'elle a pris quand même 3 buts. Elle aurait pu en prendre beaucoup plus. Mauvaise nouvelle pour l'AC Milan, il y a Kalulu qui est blessé, qui sera absent 5 mois, je crois. De ce que j'ai compris, parce que je ne connais pas forcément les options qu'une Milan AC a sur la table, mais de ce que j'ai compris, ce serait plutôt Florenzi qui serait au marquage de Kylian Mbappé. Ça me donne envie. Ça me fait rigoler parce que ça me rappelle des soirs contre de Manchester City où tu vois Florenzi qui essaie de faire un retour défensif et je resterai traumatisé pendant très longtemps de ce repli défensif. Donc Bourville, t'es parti où?
Il est parti. Ah.
Bourville, qu'est-ce que tu penses de cette défense du Milan AC?
Il y a Pulisic qui est blessé aussi, je viens de voir.
Ah, défense sans Kalulu, Dryas. Est-ce que tu penses que cette défense de l'AC Milan peut prendre encore plus de buts?
C'est ce que disait Sofiane tout à l'heure. C'est le Milan sera pas le même à Milan, à San Siro, que ce qu'il était à Paris. Maintenant, les absences qu'ils ont au milieu, l'absence maintenant en charnière, les attaquants qu'on a, le fait que nos milieux commencent à marquer, donc du coup, comme nos milieux commencent à marquer, ça, c'est un truc dont on n'a pas parlé tout à l'heure. C'est vrai que Kylian manque un peu d'efficacité, mais parce que tout le monde a dans le logiciel installé le fait qu'il faut juste défendre sur les attaquants. Maintenant que les milieux commencent à marquer, tout à coup, les défenseurs vont commencer à monter sur les milieux et les attaquants vont avoir beaucoup plus d'espace. J'ai du mal à avoir peur de cette équipe, en fait. J'ai vraiment du mal à avoir peur de cette équipe, même à San Siro. ils manquent de certitude, même s'ils font un plutôt bon début de saison, ils manquent de certitude avec vraiment peu de matchs référents sur le début de la saison. Ils ont des blessés qui sont essentiels. Ils attaquent ce match avec au moins un blessé avec Kaloulou qui était titulaire indiscutable, mais peut-être même un autre en attaque. Il y a un moment où ça devient difficile d'avoir peur d'eux, quoi. Ça devient vraiment difficile, donc je pense que ouais, ils vont s'en manger des buts.
Kevzor, toi qui fais pas souvent tes devoirs sur, sur l'adversaire, qu'est-ce que tu en penses de cette absence de Kaloulou?
Ben en fait, je fais pas mes devoirs, mais je sais que Florenzi je connais le joueur étant donné que ça a été un Parisien. Et malheureusement, je pense que si Florenzi ne prend pas sa ventoline dans sa poche, ça risque d'être compliqué. C'est un joueur qui malheureusement a des qualités techniques, mais qui a beaucoup de difficultés défensivement, dans son replacement, dans son dos, en un contre un, mais qui est capable aussi de sortir une pièce de son chapeau, je ne sais plus quelle est l'expression exacte, et qui est capable aussi de faire un très bon match. Faut pas l'oublier, Florenzi a quand même fait certains gros matchs avec le PSG de manière très intéressante, et il ne faut pas nier que tous les joueurs en sont en capacité. Mais voilà, moi je pense qu'aussi le problème de ce Milan AC en Ligue des Champions, en dehors de la défense, c'est qu'ils n'ont pas marqué un seul but. Et si tu ne marques pas de but, tu ne mets pas en difficulté l'adversaire et ta défense est beaucoup plus fragilisée. C'est la seule équipe de Ligue des Champions, je crois, qui n'a pas marqué de but cette saison. Je ne vais pas te mentir, si tu n'es pas dangereux offensivement, ta défense est beaucoup plus en difficulté. Et aujourd'hui, c'est le cas du Milan AC, qui en plus, voilà, comme tu l'as dit, a été très très fragile contre le PSG défensivement.
Parisien 88.
Je suis encore dernier.
Bah écoute, Milan complètement décimé comme ça, c'est vrai. Hein, pas de Kaloulou, peut-être pas de Pulisic, qui est assez intéressant de son côté droit. Qui avait montré quand même deux, trois choses au parc au match aller, hein, au niveau de ses centres, au niveau de la profondeur qu'il apporte à droite, tout ça. Et puis aussi un mec qui n'est pas là depuis longtemps à Milan, qui n'était déjà pas là à l'aller, et que ça leur fait vraiment du tort au milieu de ne pas l'avoir, c'est Bennacer. Tu vois, donc ils ont vraiment beaucoup d'absents importants. Mais je veux quand même me méfier parce que le PSG, souvent en Ligue des Champions à l'extérieur, ces derniers temps, on n'est pas comme à domicile. Il y aura l'ambiance hostile de San Siro. Ça reste San Siro, ça reste l'AC Milan avec l'ADN Coupe d'Europe. Ils ont besoin de points. Attention à l'excès de confiance. Moi, je m'en méfie quand même. Ils ont quand même pas mal de joueurs internationaux, tout ça. Donc, j'espère que nos joueurs du PSG ne seront pas sur le même état d'esprit que nous ici en disant oh, c'est bon, on n'a pas besoin d'avoir peur d'eux. Non, il faudra qu'on fasse notre match et il faudra quand même en faire. Ils ont besoin de points en plus, donc il faudra vraiment faire attention. Je m'en méfie. C'est surtout, moi, c'est surtout de savoir comment nos joueurs vont être là-bas face à la pression de San Siro, sachant qu'à l'extérieur, en général, on n'est pas très bien en Ligue des Champions ces derniers temps. Donc, ouais, je reste quand même sur la prudence. Mais je pense qu'on va s'imposer un petit 2-1, quelque chose comme ça.
Je m'excuse, Rekoba, de t'avoir encore mis en dernier. J'essaie de tourner, mais je ne l'ai pas vu celui-là. D'ailleurs, je pense que ça a été fait involontairement parce que je sais que toi, tu as fait tes devoirs et que tu connais beaucoup le Milan AC et que tu pourras mieux nous dire en quoi l'absence de Kaloulou est aussi préjudiciable pour l'AC Milan.
Bah, c'est sûr qu'il n'y a rien qui joue pour le Milan. Hein. Ils n'ont pas marqué de la compétition. On leur a mis 3-0, on les a bouffés au milieu. Derrière, ils étaient fébriles. Et là, en plus, ils perdent Kaloulou. Il y a plein de choses qui font que. En plus, ils n'ont pas le choix de gagner là à San Siro. Donc, ça rajoute quand même une pression sur eux, mine de rien. Mais voilà, attention à la bête blessée. Ils sont chez eux. Ça reste le Milan, comme l'a dit Ayoub. Ils ont quand même l'ADN européenne. Donc il va falloir faire attention quand même, et nous à l'extérieur, bah, souvent on est moins bon. Quand il y a une ambiance un peu hostile, on perd nos moyens. On a beaucoup de jeunes joueurs aussi, donc attention à la bête blessée, mais c'est sûr que cette absence de Kaloulou, elle est préjudiciable parce que t'es obligé de faire jouer. Alors pour moi, Florenzi ne jouera pas, hein. Pour moi ce sera Malik Thiaw avec Tomori en défense centrale, et ce sera Calabria à droite, à moins que Thiaw soit suspendu ou blessé ou que Calabria ne puisse pas jouer. Pour moi, Florenzi sera sur le banc. Mais bon, c'est bien gentil de parler d'absence préjudiciable, mais en attendant, je vous rappelle quand même qu'on a joué contre l'équipe C de Manchester United et qu'on s'est fait éliminer, qu'on parlait de Newcastle qui était défensivement à la rue, d'un match-up favorable entre Dembélé et Dan Burn, et au final, on a pris une drill. Donc, à un moment donné, j'ai envie de plus de parler de notre équipe. Au moins, on a des certitudes. Eux n'en ont pas. L'avantage, il sera surtout là-dessus. Mais ça va être un match difficile, plus difficile qu'au match aller. Maintenant, il va falloir montrer qu'on est capable d'aller gagner à l'extérieur, parce qu'à Newcastle, on n'a rien montré du tout, bien au contraire. Mais ça ne va pas être évident, même s'il y a des absents. Et puis, à un moment donné, les statistiques, c'est bien beau. C'est sûr qu'aujourd'hui, rien n'annonce que Milan peut nous battre. Mais attention, les statistiques sont faites pour être déjouées. Et à l'extérieur, attention au PSG, même si, évidemment, je pars confiant comme tout le monde.
Kevzor, en 30 secondes, parce qu'il faut qu'on avance.
J'avais Edrias, mais bon, du coup, vu que tu m'as donné la parole, ça va être très simple. Il y a un truc qui est, en termes de pression, c'est que le Milan, je pense, en perdant, est quasi éliminé de cette Ligue des Champions, s'il y a victoire entre Dortmund et Newcastle. Et deuxième chose, je ne sais plus ce que je voulais dire, donc vas-y Drias, comme ça, ça ne fait pas 30 secondes.
Je voulais juste réagir à ce que disait Reco, mais très rapidement. Hein. C'est vrai, on n'avait pas de certitude quand on jouait à l'extérieur, mais le truc, c'est qu'on n'avait pas de certitude non plus quand on jouait à domicile. Et maintenant, on commence à avoir des certitudes quand on joue à domicile, mais en fait, on commence surtout à avoir des interrogations. On ne sait pas comment cette équipe se comporte. Il y a tout un tas de jeux au niveau mental, au niveau de l'équilibre d'équipe, au niveau de l'envie de se battre les uns pour les autres, au niveau qui sont en train de se développer sous nos yeux. Donc justement, sur ce match à venir, bah peut-être que tu auras raison. Peut-être qu'effectivement, on sera encore plus faible à l'extérieur. Mais va savoir comment on va réagir. Le truc, c'est qu'en plus, vraiment, Milan est une bête un peu blessée, une bête qui a de la difficulté. Comme tu le dis, bah, les statistiques sont faites pour être mentir, mais mine de rien, les statistiques, elles sont là. Et vraiment, je ne partirais pas du principe qu'on va se faire bouffer. Après, j'ai souvent tort hein, quand je parle d'avant.
Ah non, moi, je dis pas qu'on va se faire bouffer, je dis que ça peut arriver, attention.
Mais le truc, c'est je ne pense pas qu'on puisse utiliser ce qui s'est passé dans le passé pour justifier comment l'équipe va jouer maintenant, parce que en fait, pour l'instant, on est face à une équipe qui est plus ou moins une énigme. Il y a des nouvelles choses qui sont en train de se développer. Le comportement à l'extérieur, même sur le début de la saison, le comportement à l'extérieur était un peu à l'image du comportement à domicile. Tu avais des matchs à domicile aussi, des 4-2-4 à domicile qui ont ressemblé à rien. Et le coach est en train de créer quelque chose. Attendons de voir les matchs avant de tirer des conclusions dans un sens ou dans un autre.
Chaque sujet dans son sujet, les amis. On était en train de parler de Kaloulou. Il y a Arnaud et Fabien qui me vannent. Sur mes pronos, mon 3-1, il va finir par passer. Parce que la seule fois où j'ai dit qu'il n'y a pas de 3-1, c'est le jour où il y a eu un 3-1. C'est quand même infernal, c'était contre Rennes. J'ai dit qu'on va perdre contre Rennes à cause de Genesio et c'est la première fois qu'on gagne 3-1. Ouais, donc si je dis qu'on perd contre Milan, je pense que ça va être 3-1. Bon, vu que les derniers seront les premiers, Monsieur Ricobar, Asensio n'est plus blessé. Depuis le début de saison, on se rend compte que c'est le seul qui arrive à être convaincant dans son poste de numéro 9. Pas parce que c'est forcément un meilleur numéro 9 que les autres, mais parce qu'il arrive à décrocher et il arrive à être présent dans le jeu. Il arrive à combiner avec les autres. Il arrive à tenir le ballon, chose que les deux autres ne savent pas faire. Je ne sais pas exactement dans quel état physique il est, mais est-ce que tu lui donnerais du temps de jeu face au Milan? Et pour la suite, est-ce que tu partirais avec lui titulaire?
Ouais, et bah juste avant, je voudrais juste dire aussi que face au Bayern, on s'est qualifié avec Florenzi, Dagba et Backer, hein, quelque chose comme ça. Donc à un moment donné, bon, Florenzi ou Calabria, voilà, un match de foot, c'est hors du temps, surtout à San Siro en Ligue des Champions. Mais Asensio, pour moi, ça va être un peu léger, hein, forcément, là, face au Milan, il ne peut pas être titulaire. Je pense qu'on le verra peut-être titulaire en Ligue 1 lors du prochain match, ou alors rentrer, je pense que ça va se faire petit à petit. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir un effectif qui permet de faire revenir de blessure les joueurs vraiment petit à petit, là où avant, on devait tirer sur la corde et qu'au final, on les a quasiment tous fragilisés. Là, on a la chance de pouvoir prendre notre temps, donc je pense que ça va se faire petit à petit. Mais oui, effectivement, c'est celui qui s'en sort le mieux et c'est un profil complètement différent des autres. C'est le seul qui connaît un peu le jeu de position. Il a déjà joué avec Luis Enrique, il sait ce que c'est. En faux neuf, il touche bien le ballon, il participe au jeu, il permet aussi aux ailiers de marquer un peu plus, de jouer plus rapidement aussi avec eux. Il comprend le jeu, il a beaucoup plus d'intelligence de jeu. Techniquement aussi, il est meilleur. Donc forcément, il permet différemment que Ramos, parce que Ramos fera remonter le bloc par des décrochages, son jeu de tête, des remises de la poitrine. Asensio, c'est plus balle au pied. Et dans une équipe comme ça, qui joue vraiment bien au foot et qui a des préceptes de jeu avec le ballon au sol, avec des mouvements, etc., bah forcément qu'un Asensio, avec sa technicité, sa vision de jeu aussi, et le fait qu'il comprenne vraiment son intelligence de jeu, voilà, bah c'est beaucoup plus facile et il s'adapte plus facilement. On l'a vu lors des premiers matchs. Malheureusement, il s'est blessé. Mais au final, il a la chance que derrière, ni Ramos ni Kolo Muani n'arrivent vraiment à s'imposer. Et on voit que ce rôle de neuf, c'est très compliqué pour eux. Et qu'au final, bah, y a qu'Asensio qui arrive à ressortir vraiment en faux neuf. Il permet à tout le monde d'être meilleur, les milieux, les ailiers. Donc, ouais, j'ai hâte de revoir ce que ça va donner avec Asensio. Mais pour l'instant, c'est de bon augure pour la suite, en tout cas.
Parisien 88, dans cette équipe qui ne sait pas jouer avec un neuf, est-ce que, je te repose la même question, est-ce que tu partirais sur Asensio, que ce sera pour Milan ou pour les matchs après, puisque c'est le seul qui arrive à plus ou moins s'adapter au système de Luis Enrique et à exister dans un match?
Ben, moi, Asensio, non, là, contre Milan, c'est trop tôt, il a été trop longtemps absent, ça va être un match de Ligue des Champions avec grosse intensité, le faire jouer contre Milan, ça serait trop juste. Après, quand on parle des qualités que tu viens d'énumérer et que Recoba vient d'énumérer sur Asensio, je voulais faire un petit rebond dessus parce que ça me fait un petit peu rire. Alors, c'est pas vous hein, qui me faites rire, mais je repense à toutes les conneries que j'ai lues quand le PSG l'a fait signer. En mode, c'est quoi cette arnaque? Ce mec-là, il est cramé, c'est une daube, il est surcoté, c'est la poubelle du Real, on récupère les détritus du Real. Et moi, quand il a signé, je l'ai dit, les gars, Asensio, vous lui manquez trop de respect. Ce mec-là, il est polyvalent, il peut jouer ailier, il peut jouer faux neuf, il peut même rentrer dans le milieu de terrain avec sa projection vers l'avant, sa technicité, sa vision du jeu, sa qualité de passe. Et il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'il a joué avec le Real, même s'il était que remplaçant, il était quand même assez bon. Et moi, je savais que ça allait être un très bon joueur s'il n'avait pas de pépin physique, parce qu'on sait qu'il a eu aussi des petits problèmes physiques, enfin de blessures au Real. Et j'étais vraiment très surpris des réactions que je voyais sur les réseaux. J'avais l'impression qu'on venait de signer Nolan Roux, quoi. Tu vois, c'était non, Asensio, c'est un très très bon joueur qui a en plus de l'expérience, qui a remporté plusieurs Ligues des Champions, qui a un très bon état d'esprit, qui est très professionnel. C'est un vrai mec de collectif, de groupe, polyvalent. Non, moi j'aime beaucoup Asensio. Voilà. Donc, mais après contre Milan, ça risque d'être juste.
Monsieur Bourville, c'est quoi votre avis sur le numéro 9? Parce que vous avez souvent fait la propagande de Monsieur Ramos. Donc, que l'élu est de retour.
Déjà, je vais commencer par constater que tu fais la dépropagande de Ramos, parce que ce que tu as dit sur Ramos est complètement faux. Le problème de Ramos, c'est qu'il n'est pas décisif, c'est pas qu'il participe pas au jeu. C'est Recoba qui l'a très bien résumé, c'est la participation au jeu de Ramos et en fait complémentaire de celle d'Asensio. Asensio l'a fait balle au pied, Ramos le fait un peu en mode physique de déménageur, mais il y a de nombreuses occasions qui ont été procurées par le Paris Saint-Germain quand Ramos était là, parce qu'il était redescendu au milieu et qu'il initiait les premiers mouvements. Dire qu'il participe pas au jeu, c'est juste complètement faux. Il y en a un qui marque pas et qui participe pas au jeu, c'est Kolo Muani.
Bon, Ramos, t'as dit quoi? Il y en a un qui marque pas et qui participe au jeu.
Et qui participe pas au jeu, c'est Kolo Muani. Le 9.
Rappelle-moi le nombre de buts de Kolo Muani et le nombre de buts de Ramos, s'il te plaît.
Oui, bah, si tu veux, oui, effectivement, Kolo Muani en a mis 2, il me semble, disant.
Ok, ouais, 3.
Ouais, et Ramos en a mis 0. Mais je maintiens ce que je dis. Et sinon, le souci de Ramos, c'est qu'il ne marque pas, qu'il n'est pas décisif. Et pour l'instant, c'est ce déclic. Et si tu veux, tu es dans ta propagande, parce que ce n'est pas vrai. Dire que Ramos ne participe pas au jeu, c'est quelque chose de complètement faux.
Bah, c'était vous qui avez lancé cette propagande quand toi et Bastou, vous disiez qu'il n'était pas servi, qu'il était boycotté par l'équipe de France.
C'était au tout début, ça. C'était les deux premiers matchs. Il y a un moment, les choses évoluent, quoi. Mais bon, toujours est-il, pour en revenir sur Asensio, l'essentiel a été dit. Il y a juste un truc, moi, c'est pas moi qui le dis, c'est pas mal de gens qui ont observé sur Real, c'est qu'Asensio, il y a des moments où il est très bon et des moments où il est moins bon. Donc là, pour l'instant, on a vu que le très bon. Est-ce qu'il va falloir s'attendre au très bon toute la saison? On verra. Mais pour l'instant, c'est celui qui a amené le plus de certitudes, mais il est tout simplement pas prêt, quoi. Il a pas encore le coffre, il revient trop tôt. Peut-être pas. Un truc qui pourrait être cool, c'est par exemple, tu mènes 2-0, tu le fais rentrer à 60e. Et ça serait top. Mais rentrer en début de match, ça serait pas crédible pour moi.
Kevzor, te laisse terminer.
Non, mais Asensio, en termes de complémentarité, pour le moment, est le joueur qui nous a apporté le plus de garanties pour permettre de faire briller, de faire vivre nos deux ailiers. Quel qu'il soit, mais notamment Mbappé et Dembélé. Maintenant, en fait, c'est des profils qui sont totalement différents, que ce soit Asensio, que ce soit Ramos, que ce soit Colomani. Moi, le premier, j'étais pas forcément un grand fan de la venue d'Asensio, mais force est de constater que pour le moment, ses prestations sont quand même abouties. En plus, toutes les rumeurs qu'elles soient salariales, etc., sont loin d'être ce qui lui a été proposé et donné par le PSG. Et il ne faut pas oublier que l'année dernière au Real de Madrid, c'était quand même le meilleur super sub d'Europe en termes de statistiques, en sachant qu'il n'avait pas forcément beaucoup de minutes et très peu de titularisation. Il avait des stats qui étaient quand même exceptionnels pour un joueur qui démarrait tous les matchs sur le banc. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'on s'est plaint pendant des années d'un banc qui était famélique, qui était lamentable, qui à chaque fois qu'on remplaçait un joueur, eh bien on baissait d'un niveau drastique. Dès qu'on avait 2-3 absences, on était en difficulté. Aujourd'hui, on a quand même la capacité à avoir un banc, que ce soit sur le plan défensif et offensif, de qualité. Chaque absence peut être compensée par un profil différent ou par un joueur qui peut vraiment ne pas faire affaiblir cet effectif. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, on sait qu'Asensio est un profil que Luis Enrique apprécie beaucoup. Asensio est un joueur qui comprend aussi ce jeu de position parce que c'est pas forcément facile pour certains joueurs. On voit quand même que l'adaptation de Ramos et de Colomani est pas forcément très simple depuis le début de la saison, alors qu'un Asensio a quand même de suite approprié ce que lui demandait le coach et a permis aussi de faire vibrer ses coéquipiers, enfin de faire briller ses coéquipiers. Et ça, c'est très très intéressant. Maintenant, comme l'a dit Drias, c'est vrai que Asensio, malheureusement, c'est un joueur qui est en dents de scie. Il va avoir des périodes qui sont très très positives, comme des périodes qui sont très négatives. Donc attendons de voir son retour, attendons de voir son état de forme, et ensuite on pourra juger. Maintenant, c'est trop tôt pour le faire redémarrer, en sachant qu'en plus, on voit bien que le coach a une certaine logique. Colomani Ramos, c'est 60-70 minutes et remplacement plus ou moins depuis le début de la saison. Donc à voir. Mais je pense sincèrement que c'est une très très bonne option quand il est en forme à ce poste de numéro 9. Et je ne dirais pas de faux numéro 9 parce qu'il a vraiment toutes les qualités requises d'un numéro 9 qui fait briller les autres.
Ouais, j'ai bien vu que le football de stats, comme il nous dit Arnaud, faut arrêter avec ça. Je comprends, mais les gars, quand même, sur deux matchs. Faut voir déjà qu'en deux matchs, Asensio il est plus décisif que Ramos, par exemple, qui a joué beaucoup plus. Donc, il y a le côté ce qu'on a vu sur le terrain et il y a aussi le côté stats.
Après,
qui est valide.
Vous êtes trompé sur les stats, Nix. Hein.
Il a marqué Ramos, d'ailleurs.
Ouais, Colomani, c'est 3 buts de passe dé et Ramos, c'est 2 buts. Il a mis un doublé contre l'OM, au cas où.
Non, mais c'est pas, j'ai pas dit qu'il n'a pas marqué. J'ai dit que Asensio,
j'ai dit vous êtes trompé.
Ah non, mais moi, je sais qu'il a mis 2 buts face à Marseille Ramos. Je dis juste qu'Asensio, il a marqué
mais
autant en fait, de buts, plus de passes d'ess, et il a moins de temps de jeu. Et la participation au jeu, il est aussi meilleur que les deux autres.
On est d'accord hein, sur Asensio. C'était
par
juste
contre,
le,
par contre,
le tacle que tu mettais à Ramos contre, qui était gratuit, quoi, c'est tout.
Par contre, Ramos sera plus perdant du retour d'Asensio que Colomani, puisque Colomani peut jouer à droite, peut rentrer à droite ou être titulaire à droite. Alors que Ramos, il peut jouer uniquement en pointe. Donc,
Après, Asensio aussi, comme l'a dit Parisien, hein, Asensio est un joueur extrêmement polyvalent. Il peut jouer à gauche, à droite, en 9, en numéro 10. Et ça aussi, ça permet d'avoir des solutions qui sont viables.
Mais du coup, Kev, ouais. Du coup, moi, j'ai du mal à envisager Asensio et Ramos sur le terrain.
Ensemble. Ah non, mais de toute façon, pour moi, ils ne joueront pas ensemble.
Ça fait pas sens d'avoir les deux ensemble, quoi, parce que comme le disait Réco, ils vont pas participer de la même manière, mais ils vont plus ou moins occuper assez souvent les mêmes espaces, en fait.
Ouais, non, mais de toute façon, c'est un joueur, c'est fort probable ce que tu dis. Maintenant, est-ce que le coach sera capable de faire jouer ces deux joueurs ensemble si on a des blessures, etc.? Je pense que oui, parce que c'est quelqu'un d'intelligent et qui permet de. C'est des joueurs qui sont quand même assez intelligents, mais Asensio aussi a une palette que l'on a que très peu dans cet effectif. C'est qu'Asensio, il peut marquer de n'importe quelle position, les gars. Et ça, au niveau. On l'a dit, hier, on gagne 3-0, 3 buts de nos 3 milieux de terrain. Asensio, c'est un joueur qui peut marquer de n'importe où sur le terrain. Et ça, sur le plan offensif, Dembélé peut une grosse frappe de balle, mais en termes d'efficacité sur les tirs, ce n'est pas terrible. Colo, c'est un joueur quand même qui n'a pas marqué beaucoup de buts en dehors de la surface. Ramos, pareil. Et bon, on a Mbappé, mais voilà, Asensio, quand même, en termes de frappe de balle, c'est très, très, très costaud, les gars.
Oui, puis là, c'est là que tu te rends compte, quand on débat de tout ça, là, est-ce qu'on va mettre lui ou lui ? Encore une fois, c'est là que tu vois qu'on a vraiment un très bel effectif cette année. Il y en a un qu'on n'a pas parlé aussi, qui hier était sur le banc tout le match et qui est aussi parmi les offensifs, c'est le petit Barcola. Moi, franchement, cet effectif, moi, il me fait kiffer. En plus, c'est que des mecs de devoir, de collectif. C'est beaucoup de polyvalence dans cet effectif. Non, franchement, moi, ce PSG-là me fait vraiment kiffer. Je me retrouve beaucoup plus dans ce PSG-là qu'il y a encore récemment celui derrière. C'est vraiment, moi, je kiffe.
En extrêmement. Ouais,
ça fait du bien. Ça fait du bien parce que sur l'équipe 21, ils kiffent pas. Visiblement, ils se font chier, ils aiment pas. Donc c'est quand même bizarre.
Pourquoi ils kiffent pas avec Boba? C'est parce que tout simplement, ils ont pas de débat négatif à dire. Il y a rien de négatif à raconter, donc ils sont dégoûtés, quoi. Et même au niveau du coach, on a un grand coach d'expérience qui apporte discipline, rigueur, travail. Non, franchement, moi, je.
Non, mais oui.
Je kiffe. Alors, je dis pas qu'on va gagner avec champion, qu'on va peut-être. Non, mais je kiffe beaucoup plus et je prends plus de plaisir et je me retrouve beaucoup plus dans un effectif comme ça cette année.
Totalement.
De toute façon, c'est très dur de ne pas plus kiffer que ce qu'on a vu depuis 2-3 ans.
C'est
quoi.
Clair.
Sincèrement. C'est clair. Tu vois, je préfère gagner des matchs 3-2, 5-2 que de les gagner 1-0 ou 2-1 ou en perdre autant qu'on en perdait dernièrement. Et en plus… En s'ennuyant, c'était vraiment ennuyeux, quoi. Il y avait des coups de folie, mais le reste, c'était le néant.
C'est ça.
Ouais. Yaya, merci. D'ailleurs, s'il y en a d'entre vous qui travaillent chez Nike, n'hésitez pas à nous envoyer plus de survêtements comme ça. Le mec qui veut gratter. Ok. On est bientôt… Enfin, on a dépassé la moitié des phases de poule. Il reste 3 matchs. On voit que Dortmund a récupéré… sa forme, entre guillemets, puisqu'elle sort d'une victoire face à Newcastle. Ils sont plutôt bien placés en Bundesliga. Le début de saison était compliqué, maintenant ils commencent à revenir. Newcastle nous a mis 4-1. Donc, ma question, c'est est-ce que c'est le match à absolument gagner? Est-ce que c'est le match le plus facile des trois? Ou il ne faut pas se louper? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un match qui nous dirige fortement vers la qualification. Vas-y, Kev.
Eh bien, pour moi, il ne faut pas se louper parce qu'aujourd'hui, en fait, tu peux, entre guillemets, enterrer le Milan définitivement sur cette phase de poule et les mettre hors jeu par rapport à la course, à la qualification avec le PSG et encore plus à la première place. Donc, pour moi, c'est un match extrêmement important en sachant qu'il y aura forcément un gagnant et un perdant si tu gagnes contre le Milan entre Newcastle et Dortmund ou, dans tous les cas, deux perdants parce que si tu prends 3 points et que tes deux autres concurrents directs n'en prennent qu'un seul, tu fais quand même un grand pas en avant. Maintenant, il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, faire attention à la bête blessée. Ce n'est pas facile de s'imposer à San Siro. Ça reste quand même une équipe qui, l'année dernière, a fait un super parcours en Ligue des Champions. Ça reste une équipe qui doit être revancharde parce qu'ils n'ont qu'une victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et ils ont quand même une force offensive qui est quand même de qualité. Mais je pense vraiment que ce match déterminera la suite de notre compétition et nous permettra d'aborder en fait les deux autres matchs et notamment la revanche face à Newcastle à domicile de manière beaucoup plus sereine. Et on en a besoin. On a besoin de sérénité. Comme l'a dit tout à l'heure Parisien, les médias n'ont que très peu de choses à se mettre sous la dent avec ce PSG-là. La preuve en est, l'avant-dernier match de Ligue 1, 3 journalistes présents à la conférence de presse. Laissons tous les à côté de côté. Allons faire un gros match à San Siro pour nous permettre de travailler et d'aborder aussi cette trêve internationale de manière plus tranquille.
Issa, franchement, vu comment tu as posé, tu as proposé ta question, en fait, tu me fais penser au mec qui envoie des CV. Mais qui te mettent un truc intéressant, t'es obligé de leur répondre. Donc, on va te répondre.
Un billet de 10 euros dans le CV, tu sais.
Exactement. Bon, qu'est-ce qui est passé dernier tout à l'heure que je ne le remette pas dernier?
Vas-y, Darius. C'est souvent dernier après.
je ne sais plus, j'en sais rien. La question, c'était le plus facile, le plus. Difficile à dire. Il y a ce groupe est devenu complètement illisible, en fait. T'as l'impression que tu vas avoir un Newcastle qui va rouler sur tout le monde et Newcastle il bute sur l'équipe sur laquelle on avait roulé tellement facilement Nous, on se fait donc taper par Newcastle avec Milan. Enfin, Milan arrive à accrocher ses deux points contre ces deux équipes. C'est devenu illisible. Donc, est-ce que c'est le club le plus faible? Je ne sais pas. Maintenant, c'est sûr que si on met les trois points là, c'est Kev a dit l'essentiel. C'est si on met ces trois points là, on s'achète la tranquillité d'esprit de pouvoir aborder le reste en travaillant. Alors que si tu enregistres une défaite et que tu te retrouves en situation, t'es plus premier, tu te retrouves avec un match qui va être couperet derrière et tu te compliques singulièrement la vie. C'est juste, c'est pour gagner vraiment pour se simplifier la vie, je pense.
Parisien 88, désolé Rico, tu seras dernier, mais tu seras premier sur la question tactique qui arrive, parce que c'est ta spécialité, t'inquiète.
Moi je dis que en Ligue des Champions et surtout dans ce genre de poule, tous les matchs sont très importants et dans ce genre de poule, laisser des points, ça peut être très 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 fatal. Donc oui, ce match il est très important et je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure Kev, c'est que si on veut aborder sereinement les deux prochains matchs, surtout qu'on aura un gros déplacement à Dortmund, vaut mieux les aborder sereinement et en position de force. Et donc oui, il faut absolument gagner demain Milan, encore plus avec un Milan qui a des joueurs importants qui ne seront pas là. Pour moi, mardi, c'est victoire impérative, oui. Voilà.
Rico, je te laisse terminer.
L'avantage, c'est qu'on aura moins de pression qu'au Parc. Là, cette fois, même si on perd, il n'y a pas grand danger forcément. On sera peut-être relégué à la deuxième place. Et encore, s'il y a match nul de Dortmund et Newcastle, on sera toujours premier. Donc, c'est bien parce qu'au moins, on va jouer sans grande pression. C'est plus peut-être l'atmosphère à Milan qui nous mettra un peu de pression. Mais on n'aura pas de pression de résultat. Donc, ça, c'est bien. On va pouvoir jouer, faire notre match comme on peut le faire, au mieux qu'on peut. Et puis, j'espère qu'on repartira avec les trois points, parce que c'est vrai que c'est une victoire qui peut être importante. Ça peut être un tournant, surtout pour la première place. Ça peut nous assurer quasiment la qualif, parce que tu mets hors jeu déjà le Milan par rapport à toi, mais un Milan qui peut toujours se qualifier. On l'a vu dans ce groupe-là, tout le monde bat tout le monde. Donc forcément, avec 9 points en tête du groupe, tu es quasiment qualifié et tu as des grandes chances de finir premier. Tu laisses le Milan qui peut encore se qualifier, donc qui peut prendre des points au futur deuxième, et donc tu t'assures quasiment au final la première place, et au final en ayant passé les deux plus gros déplacements, puisque tu as été à San Siro et à Saint James Park. Donc ouais, forcément une victoire à San Siro là te permettrait d'être quasi assuré de finir premier si derrière tu continues à faire le boulot correctement. Donc ce serait bien de gagner, mais ce qui est bien surtout, je trouve, c'est qu'au moins on n'a pas cette obligation d'aller chercher 3 points. On a quand même une pression en moins, mais ce serait bien si on y allait. Et puis en plus, voilà, on a quand même mis 3-0 au match aller. Il manque du monde au Milan, ils n'ont aucune garantie. Donc ouais, ce serait bien d'aller gagner. Ouais.
Andreas, on va pas te donner la parole parce qu'on est en retard. Ça fait déjà 57 minutes, il nous reste encore deux choses à traiter. Tu prendras sur le 4-2-4, parce que ce qui arrive là, c'est on a vu un Paris Saint-Germain à deux visages. Il y a eu Vitinha qui était un peu plus excentré. On a eu pas mal de difficultés au milieu de terrain face au Milan AC dans les 20-30 premières minutes. Et après, quand Vitinha s'est replacé un peu plus dans l'axe en deuxième, on a plus eu le ballon. Et du coup, le match a été un peu plus facile pour nous, même si on l'avait déjà marqué avant. Donc, Raiko, toi, tu mettrais quoi pour le match de mardi? Est-ce que tu partirais sur le 4-2-4 de la première ou est-ce que tu irais directement avec le 4-3-3 de la deuxième mi-temps?
En vérité, c'est vrai que c'était criant sur le match de Milan, mais quand on regarde le match d'hier, au final, ça change tout le temps pendant le match. On a pu voir Kanginli à gauche. Deux minutes après, on le voyait au milieu de terrain. On voit Hakimi au milieu. Donc au final, sur un point défensif, c'est très clair. On est plus sur un 4-4-2 avec Vitinha ou Kanginli à gauche. Et Dembélé qui défend aussi, donc on est plus sur un 4-4-2. Mais offensivement, quand on est en train de construire, on voit une sorte de 3-5-2 avec nos trois DC, avec un Kanginli ou un Vitinha sur le côté, avec trois milieux de terrain, Ugarte, Zaire Emery, et un Hakimi qui vient aider. Il y a Dembélé sur le côté, et vraiment il y a deux attaquants axiaux avec Kolo Muani et Mbappé, ou alors Ramos et Mbappé. Donc ouais, c'est ça varie à chaque fois. Je pense que en fait cette question de 4-2-4, 4-4-2, 3-5-2, 3-4-3, il faut arrêter de se la poser parce qu'au final l'animation change tout le temps. Il y a que défensivement où on est vraiment sur un vrai 4-4-2 quand on défend, mais sinon ça change tout le temps offensivement. Il y a un rôle très clair de Kanginli ou Vitinha qui est d'aider à gauche et de défendre aussi côté gauche puisque ça permet à Mbappé d'être plus haut. Et on a une consigne très claire aussi avec Hakimi, qui c'est pour moi les deux postes les plus importants et c'est eux qui permettent l'équilibre de l'équipe, tant offensive que défensive, avec Kanginli ou Vitinha sur le côté gauche et qui repique aussi dans l'axe pour aider, pour avoir une meilleure maîtrise sur le ballon, et Hakimi aussi qui glisse au milieu pour venir aider et poser un surnombre. Et puis on voit même les combinaisons avec Dembélé, ça fait vraiment la différence. Là où l'année dernière on n'avait qu'un seul côté avec Mbappé et Nuno Mendes, là on voit que sur le match d'hier et même avant, deux tiers quasiment de nos attaques penchent sur le côté droit. Donc je pense que cette question, elle n'a plus lieu d'être. C'était tout nouveau quand on voyait sur le papier ce 4-2-4, quand on voyait 4 offensifs, etc. Mais à partir du moment où tu as Kanginli ou Vitinha dans ce milieu-là, ça varie tout le temps. On le voit à gauche, on le voit au milieu, peu importe le joueur. Donc je pense que cette question, au final, elle n'a plus lieu d'être. Mais forcément, ça permet en tout cas un meilleur équilibre, d'avoir un peu mieux le ballon, un peu plus le ballon. Ça permet aussi de mieux défendre, d'être plus équilibré défensivement. Donc l'important, c'est que ça serve au collectif. Après, que ce soit 4-4-2, 3-4-3, ce que vous voulez, on s'en fout au final.
C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser Récombe répondre en premier, ils veulent les réponses des autres.
Ouais. Peut-être que vous lui faites la même chose dans d'autres sens.
Non, on est clair.
On va, je vous laisse enchaîner parce qu'il nous reste le 11 de départ et les pronos. Donc Parisien 88, Dreyas et Kevzor. C'est parti.
Par rapport au 4-3-3, tout ça ?
Ouais.
Bah écoute, moi en fait le problème c'est quand on parle d'animation, quand on parle du 4-2-4, moi je parle vraiment quand c'est 4 offensifs, comme c'était le cas à Newcastle où on n'avait que 2 vrais milieux de terrain et que c'était, attends je ne me rappelle plus la compo, mais c'était que 4 attaquants de devant qui n'étaient pas des milieux de métier. Si tu pars avec un 4-2-4 en phase offensive et dans les phases offensives tu reviens en 4-3-3 avec un vrai milieu dont Vitinha qui va revenir se remettre dans le milieu de terrain, c'est mieux, on prend moins l'eau sur les contres, on est mieux équilibré en phase défensive, tout ça. C'est pour ça que je milite pour vraiment qu'on ait ce milieu de terrain dans ces gros matchs là le milieu de terrain qu'on disait au début, complémentaire, équilibré, Vitinha, Zaïre Emery et Ugarte, pour qu'on puisse vraiment être en vrai 4-3-3, notamment sur les phases défensives. Je trouve que quand on est dans ce 4-2-4 avec que deux milieux de métier, dans les gros matchs, je ne trouve pas très équilibré. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a remis Vitinha vite dans le cœur du jeu, au milieu de terrain contre Milan, quand ça n'allait pas dans les 30 premières minutes. Hier, c'était Montpellier. Ça passe contre des équipes comme ça, c'est la Ligue 1, c'est pas des... Mais dans les gros matchs, il faut absolument être plus équilibré et jouer là. On ne peut pas, pour moi, on ne peut pas gagner la Ligue des Champions avec seulement que deux milieux de terrain de deux métiers, c'est pas possible, dans la compo. Donc, moi, je mets les trois, là. Je mets Emery, Ugarte et Vitinha et je pars en 4-3-3. Voilà.
Alors, pour répondre à ta question, la question que tu te posais, c'était Colo Ramos, Dembe, mince. Et Colo, en fait, je suis allé chercher, je ne m'en souviens même plus. Colo Ramos, Dembélé et Makelele. Je fais une bourvilitude. Il y a OK qui posait une question parce que pour moi c'est Réco qui a tout dit. Les matchs auxquels tu faisais référence, par exemple, en fait, ça a presque disparu. Le 4-2-4, on l'a annoncé plusieurs fois, mais c'était soit Viti, soit Ali, soit etc. Et d'une manière générale, pour moi, Réco, il a tout dit. En fait, ça a presque plus de sens. Alors, ça aurait sens. T'as raison là-dessus, Parisien. C'est si effectivement on repart avec 4 offensifs, ou à ce moment-là, tout à coup, ça devient de facto un 4-2-4. Mais les matchs qu'on joue, tu sais même plus si t'es à 3 derrière. T'as un latéral très souvent qui participe au milieu. Tu te retrouves très souvent avec Marquinhos qui se retrouve latéral. Enfin, tu vois, les rôles sont protéiformes. Et oula, j'ai utilisé un mot compliqué, je serais pas capable de le répéter. Et tu te retrouves à la fois du 4-2-4, du 4-3-3, du 3-4-3. En fait, c'est pour moi ça a plus de sens. Mais ouais, ce que disait OK, c'est que Ugarte et WZI pour casser le contre-pressing, c'est pas bon. Et là-dessus, tu as complètement raison. C'est un peu diminué justement par l'apport de Vitinha et ou de Lee. Et je pense encore plus, c'est encore plus le cas avec Lee, parce qu'avec Lee, tu te retrouves avec un relais au milieu qui est plus haut, et donc tu as enfin cette ligne de passe qui te permet, que tu peux avoir à trouver, et tu n'es plus justement que dépendant de Warren Zaïre-Emery qui est capable de faire le 8-to-8, le box-to-box en remontant la balle au pied. Mais c'est de toute façon, on ne va pas avoir de réponse pleinement entière là-dessus, ce qui clairement on sait que à terme pour faire progresser l'équipe il nous manquera un milieu, mais en l'état, bah si tu justement t'arrives à rajouter avec Lee ou avec Vitinha quelque chose qui annule cette problématique là, moi ça me va très bien et je trouve qu'on arrive mine de rien à s'en sortir. T'es capable quand Ugarte est en forme, en plus de ça, d'appliquer un contre-pressing qui est très haut sur le terrain, parfois dans les 60 mètres adverses, qui te permet d'avoir des récupérations, qui te permettent de sauter cette phase. Très souvent avec le Paris Saint-Germain, dans les matchs qui sont réussis, tu as l'impression qu'il n'y a pas tellement de milieu, en fait. Mais ça nous réussit très bien pour l'instant.
Kev, je te laisse terminer. Peut-être on va réussir à finir en moins d'une heure 10. Allez, vas-y.
Non, mais de toute façon, je vais faire très simple. C'est pas un 4-2-4, c'est un système hybride qui se transforme en plusieurs schémas avec et sans ballon. Tout est en fait est un jeu de position. En fait, il faut que toutes les surfaces en largeur qui sont établies par 5 bandes soient occupées, etc., etc. Donc, c'est pas un 4-2-4. Donc, et vu que beaucoup de choses positives ont été dites en amont par mes compères, mais je vais pas me prolonger sur le sujet.
Ok, bon, dernière question les gars, après je vous libère parce que c'est samedi, il y en a, ils aiment bien passer la tempête sous la couette. Parisien 88, donne-nous ton 11 de départ face à Milan, suivi de ton prono.
Alors mon 11 de départ face à Milan, Gigio dans les cages, à droite Hakimi, à gauche Lucas Hernandez, Skriniar, Marquinhos en défense centrale, Vitinha, Ugarte, Zaïre Emery au milieu, Kiki à gauche, Ousmane Dembélé à droite, et je partirai sur Colomani en neuf. Ce serait l'équipe que je...
Voilà, et ton prono?
Mon prono, 2-1 pour Paris. Un petit 2-1.
Merci, Ayoub. Kevzor?
Même compo que Parisien. La petite interrogation, c'est que c'est Kanguin. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il pourrait y avoir cette surprise, mais sinon, je vois bien la même compo qu'il a annoncé. Et par contre, moi, je vois un 2-2.
Un 2-2 ?
Ah ouais.
Ok. Dryas, on te laisse.
Qui ne serait pas un mauvais résultat aussi. On serait assuré de garder la première place.
Ça dépend s'il y a un match nul de Dortmund.
C'est là-dessus que je voulais réagir à ce que disait Rico. Je ne suis pas sûr de ça, en fait, parce que tu t'achètes le prochain match, c'est contre Newcastle. Tu peux avoir les jambes qui flagellent avec le match aller. Et en fait, c'est ce que moi, j'étais d'accord avec ta ligne. En fait, ce n'est pas tellement par rapport à Milan et les mettre derrière. C'est juste s'acheter la tranquillité d'esprit. Parce qu'on est mine de rien une équipe en construction et j'ai pas envie qu'on se mette un truc avec tout à coup il y a la pression et tu te retrouves avec Newcastle chez toi ou à Newcastle t'as fait mal à l'aller, etc. Pour la compo, je vais faire exactement la même. Ça peut être.
Sauf qu'il va mettre Ramos en numéro 9, bien sûr.
Voilà, je le sens, Randall. Je le sens, Randall. Parce que pour moi, Randall, en vrai, Randall, enfin, tu vois, j'étais trop dur avec lui et il a des qualités, mais pour moi, il a des qualités en sortie de banc et surtout des qualités sur les ailes. Pour moi, il manque. On parle avec Asensio, on parle d'intelligence tactique. Pour moi, Randall, c'est l'opposé. Il n'a pas ce truc-là. Il a des déficiences techniques qui font que quand il est là au début du match, pour moi, ça me pique les yeux. Et je pense que Ramos, c'est un joueur qui est plus dans une crise de confiance. C'est l'archétype du buteur qui est dans la crise de confiance. Pour l'instant, ça ne veut pas rentrer. Quand il en met une, y a quelqu'un qui est hors jeu. Il y a un moment où ça va tourner. C'est un joueur qui participe plus au jeu. De toute façon, il y a les milieux qui peuvent marquer. Il y a les autres attaquants, hein. Il y a Kylian Mbappé, il y a Dembélé, il y a bien un moment où tu sais, c'est juste une question de statistiques. Il y a un moment, il y en a une qui va rentrer dedans, hein. Ça va arriver un jour. Je crois qu'il en est à 16 tirs sans marquer depuis le début de la saison. C'est un truc assez psychopathon. Donc il y a de quoi mettre des buts et c'est juste que pour le jeu, clairement, moi je préfère qu'il y ait Ramos. Et sinon, pour le prono, moi, je vais être un peu plus optimiste. Je vais annoncer un 2-0. Ce Milan a vraiment du mal à marquer. On a un Leao qui est complètement hors de forme. Alors, il faut que je fasse gaffe. Hein. Chaque fois que j'annonce des pronos comme ça, ça ne marche pas. Je suis un peu comme Nick. Je suis un chat noir du prono. Mais on a un Leao qui est complètement hors de forme. Pulisic, a priori, sera là, d'après ce que je disais. OK. Mais après, est-ce qu'il sera en forme? Est-ce qu'il n'est pas en méforme, justement? Il y a Bennacer au milieu qui leur coûte tellement cher, qui les gêne dans la construction. Là, il y a la charnière qui va être exposé. notre équipe commence à faire peur, enfin, moi je pars sur un 2-0.
Ok, bah moi je pars sur la même compo que Kevzor et Parisien 88, parce que comme il dit Serge, on a vu par exemple Colomboigny qui a fait sortir deux cartons jaunes en même pas 10 minutes face à Milan. Donc je pense que la défense va avoir du mal à déjà sans Kaloulou à traiter Colomboigny, la vitesse et la puissance surtout de Colomboigny, plus celle de Mbappé. Et la vitesse de Dembélé à côté, c'est ingérable pour une défense de ce niveau, pour moi. Et vous savez que je suis très fidèle à mon 3-1, mais vu qu'il arrive jamais quand je dis 3-1, je vais dire 3-0 en espérant au fond de ma tête que ça sera 3-1. Donc on fera le bilan dans le débrief, les amis.
Et à partir de là, j'espère que ça marche pas.
Bah, c'est mieux qu'on gagne 3-0 que 3-1, Onyx.
À chaque fois que je dis 3-1... Regarde la logique, à chaque fois que je dis 3-1, ça passe pas, et la seule fois que je ne l'ai pas dit, ça passe. Donc,
oui, final... mais en même temps, à chaque fois que tu le dis, tu l'espères. Donc là, tu continues de l'espérer, donc tu changes rien, en fait.
Ok, bah, j'espère 3-0, alors voilà. bon, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Abonnez-vous sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcast, etc. Merci à Parisien 88 d'être venu. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Il est sur YouTube, il est sur TikTok, il est sur Insta, comme nous aussi. Merci Reiko, Kevzor. Reiko qui a disparu, je sais pas où il est parti.
Il a plus de batterie.
Ouais. Reiko, bah, merci à toi, merci Darius, enfin merci Bourville aujourd'hui, oui. C'est ça son prénom. Abonnez-vous partout, s'il vous plaît, les gars, likez parce que vous êtes 248, il n'y a que 82 likes. Au moins, faites-nous les 100, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas que ici, c'est Paris, encore et toujours. Ciao, les amis.
Merci.